Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Excellente journée à l'écoute d'RTL. Elisabeth Marchichoux, vous recevez ce matin la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Et on est très heureux de vous recevoir dans ce studio d'RTL, Muriel Pénicaud, bonjour.
Bonjour.
Alors que vous présentez en effet tout à l'heure en Conseil des ministres la loi d'habilitation, future réforme Pénicaud, un mot du chômage si vous le voulez bien. D'abord, puisque les chiffres sont tombés lundi, reparti à la hausse, plus 22 300 chômeurs par rapport à avril. Pourquoi cette remontée alors que la France recrée des emplois ?
Comme je l'ai dit le mois dernier, je ne commenterai pas les chiffres mois par mois parce que pour des tas de raisons techniques, ils ne sont pas vraiment pertinents, les experts le disent. Par contre, je donne rendez-vous à tout le monde fin août. Mmh. On fera un grand rendez-vous trimestriel avec des études approfondies sur tout le marché du travail, le chômage, les créations d'emplois, tous les sujets. Et là, on aura des chiffres plus pertinents qui pourront intéresser le débat public.
Cela dit, ce n'est pas un souci que le ministre du Travail refuse de commenter, même mois après mois, les chiffres de l'emploi. C'est comme si on demandait à Nicolas Hulot de commenter une mesure environnement qui vient de survenir dans la actualité, qu'il le refuse. C'est comme si on demande... C'est le ministre de l'Éducation refuserait de commenter les résultats du bac, parce qu'ils viennent de tomber. C'est une consigne d'Emmanuel Macron ?
Alors, c'est une consigne de personne, c'est ma décision, mais c'est pas le sujet. Mon devoir en tant que ministre, c'est d'apporter au débat public des chiffres pertinents qui font vraiment réfléchir tout le monde et qui donnent du matériau pour les journalistes, pour les experts, etc. Tous les experts s'accordent à dire que ce chiffre, pour des raisons techniques, si vous n'avez pas pu vous déclarer, etc., à plus 20 000, moins 20 000 chaque mois, ça ne veut rien dire.
Donc, ça veut dire des choses pour les Français.
J'ai demandé à des
ça
experts.
Veut dire des choses pour
non,
ceux qui.
Non, si le chiffre est faux, au sens, il n'est pas celui qui représente la réalité, les Français, ils veulent les chiffres sur lesquels solides, sur lesquels discuter. Et donc, j'ai demandé à un groupe d'experts qui va me faire des recommandations pour qu'on puisse avoir chaque trimestre, il y a d'autres chiffres qui existent, et surtout, il y a plusieurs chiffres, il faut se comparer internationalement, ils vont me faire des propositions, et rassurez-vous, il y aura plus de chiffres, et ils seront plus pertinents, et vous verrez, il y aura de quoi discuter beaucoup plus chaque trimestre.
C'est pas une façon de fuir cette réalité qui, effectivement, par exemple, pour le mois de mai, était quand même dramatique.
Vous voulez pas des chiffres sûrs et plus intéressants à discuter ?
On verra donc au mois d'août. C'est votre premier grand oral en Conseil des ministres tout à l'heure. Je rappelle, Muriel Pénicaud, que vous êtes l'ancienne DRH, directrice des relations humaines de Danone, ancienne patronne de Business France. Vous êtes donc issue de la société civile. Faire cette communication sur cette grande réforme devant le gouvernement, devant le président, ça donne un peu le trac ou pas ?
Moi, ce qui me donne pas le trac, mais voilà, un sentiment d'honneur, d'humilité, de responsabilité, c'est de le faire devant les Français. Cette réforme du Code du travail, je crois que, comme les autres réformes qu'on va faire, elle est attendue par les Français. Ils ont donné un signal clair de demande de changement. Et donc, voilà, on veut faire une réforme qui amène plus de dialogue social et économique, qui amène plus de liberté, plus de sécurité. C'est tout ça qui m'intéresse. Mmh. C'est comment, in fine, le but, si vous voulez, c'est pas de faire une loi pour une loi. C'est quand la loi sera dans les faits, est-ce que les salariés, est-ce que les entreprises, est-ce que les Français vont dire oui, ça a apporté un plus. Voilà, c'est ça notre but.
Vous menez les discussions à bride abattue, il y aura les ordonnances, pourquoi aller si vite ?
Je pense que, comme je le disais, d'abord, il y a eu un clair signal de demande de changement des Français. Donc, si on met un an à commencer à réformer, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils font ? Et deuxièmement, réformer le Code du travail, ce sont des effets à moyen-long terme, puisqu'on change un peu, on fait bouger les règles du jeu. Donc si on ne commence pas assez vite le long terme, les Français vont se dire, mais ça, ils mettent un temps fou. Donc je crois qu'il y avait cette urgence. En revanche, on a pris une méthode qui permet quand même d'assurer à la fois la démocratie sociale et la démocratie politique. La démocratie politique, c'est parce que c'est un projet de loi. Une loi d'habilitation, c'est une loi avec des amendements, des débats au Parlement. C'est pas un chèque en blanc, hein, c'est une loi. Et puis la démocratie sociale, parce qu'on a choisi, et c'est une forme un peu inédite, d'avoir une concertation extrêmement approfondie, thème par thème, avec chacune des 8 organisations patronales et syndicales, d'où les fameuses 48 réunions. Donc on essaie de combiner les deux, et pour l'instant, ça nous apporte beaucoup.
On parlait du chômage. Vous dites on veut aller vite, mais ce que les Français veulent par-dessus tout, c'est que le chômage baisse. On va en parler, mais il va y avoir des mesures qui seront prises par les ordonnances qui auront vite un effet sur l'emploi. C'est ça qui compte.
Alors, il faut bien comprendre que les effets sur l'emploi, c'est pas une seule chose. Le Code du travail est un sujet pour libérer des énergies, donner des sécurités, qui encourage l'emploi, mais derrière, il y a une réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'assurance chômage, qui eux vont aussi
ça,
beaucoup
contribuer.
Ça, c'est
les actes qui suivent.
Mais c'est l'ensemble qui va contribuer à l'emploi.
Et c'est pour ça qu'il faut aller vite, parce que vous voulez enclencher, par exemple, la réforme de l'UNEDIC très vite dans la foulée,
de la réforme
du Code du travail.
On commencera en septembre les concertations et les discussions sur l'assurance chômage, sur la formation et sur l'apprentissage, et ma collègue Agnès Buzyn sur les retraites. parce qu'on est persuadé que la sécurité et l'accès à l'emploi qui est nécessaire pour les Français, pour les jeunes, ils passent beaucoup par la formation et la compétence. Si vous voulez, la vraie précarité, c'est le chômage, mais la vraie sécurité, c'est la compétence. Donc le levier de la formation et de l'apprentissage est vital.
Alors il y a quand même encore beaucoup de flou sur la réforme Pénicaud, la réforme du travail. Aujourd'hui, c'est l'acte 1. Vous présentez en Conseil des ministres la loi d'habilitation qui autorise le recours aux ordonnances. Elle pose, cette loi d'habilitation, elle pose le cadre des discussions. Vous dites dans cette loi, voilà de quoi on va discuter, voilà les objectifs. Alors, c'est écrit noir sur blanc.
Oui, une loi d'habilitation, c'est moins connu de tout le monde, c'est une loi qui définit en gros comme un menu au restaurant qui vous dit voilà tous les sujets possibles. Voilà les sujets dont on va discuter en l'occurrence. Et après, dans les ordonnances, qui ont une valeur législative aussi, mais que le gouvernement prendra après, là on rentre dans le détail en disant voilà ce qu'on modifie dans le cadre de travail, telle ligne, dans quel sens. Donc c'est un mandat que donne l'Assemblée nationale en disant voilà, on autorise le gouvernement à procéder par ordonnance sur ces sujets et pas d'autres. Donc on ne peut pas rajouter 36 000 sujets. Et par contre, on peut en enlever. C'est-à-dire qu'on peut ne pas...
Reprendre dans les ordonnances des éléments
qui sont dans le texte de ce matin.
D'accord. Alors, Emmanuel Macron s'est fait quand même élire sur des promesses, vous l'avez dit tout à l'heure, on va prendre quelques articles quand même très attendus. Évidemment, la barémisation des indemnités prud'homales pour les licenciements sans cause réelle ni sérieuse. La loi d'habilitation que vous présentez tout à l'heure, elle dit précisément, il y aura un barème haut, il y aura un barème bas. Il y aura un plancher et il y aura un plafond.
Alors, la loi, comment dire ? C'est pas un cocktail de mesures dans tous les sens. Il y a trois grands domaines. Un des domaines, c'est comment on sécurise les relations juridiques entre l'employeur et les salariés. Aujourd'hui, il y a à peu près 150 000 recours au prud'homme chaque année. Il y a 18 millions de salariés en France. 150 000 recours pour des licenciements. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, les règles du jeu étant relativement floues, chaque tribunal de prud'homme fait son propre jugement. Le résultat, c'est que du point de vue des salariés, ce n'est pas toujours équitable. On voit par exemple que pour un même salarié qui faisait le même job, qui a le même type de litige avec son employeur et la même ancienneté, les indemnités prud'homales peuvent aller du simple au double. Et de côté de l'employeur, lui, il ne sait pas, il n'a pas de repère sur jusqu'où ça va. On est un des rares pays à faire ça au monde. C'est très tétanisant pour une PME de risquer, en gros, de mettre la clé sous la porte sans savoir combien elle peut avoir à payer. Donc, on veut finalement se remettre un peu dans la norme générale. Sécuriser, c'est y aller
repères. D'entreprise. Sécuriser, chef d'entreprise.
Et le salarié.
Comment ?
Et, parce qu'il saura, il saura, d'abord il y a un plancher.
Il saura ce qu'il aura s'il est licencié, lui.
Non, de toute façon, je crois que les gens confondent. Les barèmes, ce que vous savez comme quand vous êtes licencié, c'est la loi qui le définit, indemnité légale, c'est la branche, ça s'appelle les indemnités conventionnelles. Ça ne change pas. Les deux principes. Ensuite, si vous n'êtes pas d'accord avec vos indemnités licenciement, donc vous les avez touchées, vous pouvez aller au prud'homme. Vous allez au prud'homme, mais vous savez pas
dommages et intérêts.
Si vous allez, ça va prendre beaucoup de temps. Si vous êtes salarié, vous ne savez pas combien vous aurez, si vous aurez quelque chose. Et donc, vous ne saurez pas si vous serez traité équitablement par rapport à votre collègue qui, lui, a le cas similaire. Je pense que donner un point de repère sécurisant tant pour l'employeur que pour le salarié, c'est vraiment... Si vous voulez,
les syndicats n'en veulent pas. Vous comptez les rassurer comment ? Vous allez jouer justement, par exemple, sur le seuil plancher ?
On va discuter d'un plancher et d'un plafond.
Vous savez, par exemple, le plancher, déjà, vous avez une idée du nombre de mois auquel on aura droit pour...
C'est pour ça qu'on fait les concertations, non ? Rien n'est décidé sur le plancher et le plafond.
Et c'est là-dessus que vous allez les rassurer en montant le plancher ?
Mais c'est là-dessus qu'on va discuter pour trouver le meilleur équilibre. Il y a une seule chose que je peux dire, parce que ça, nous avons déjà répondu à ce point-là, pas publiquement, mais je le fais maintenant, avec les partenaires sociaux, c'est que, par contre, il n'y aura pas de plafond quand il s'agit de cas de harcèlement ou de discrimination. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est pas simplement l'emploi qui est en jeu, c'est l'intégrité de la personne. Et ça, du coup, c'est un autre registre. Mais donc, je pense que sur ce plan-là, c'est un exemple de notre méthode. Ce n'est pas des principes en général. On dit, qu'est-ce qui va sécuriser les employeurs ? Qu'est-ce qui va sécuriser l'entreprise ? Le salarié.
On va passer à un sujet dont on a beaucoup parlé aussi, c'est la répartition de ce qui relève de la branche professionnelle, de l'accord d'entreprise et de la loi. Ça a l'air finalement un peu plus consensuel. À ce stade, vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors, qu'est-ce qu'on appelle une branche ? Aujourd'hui, il y a 750 branches en France. les branches et les secteurs professionnels, l'aéronautique, l'agroalimentaire, etc., qui discutent, patronat et syndicats, d'un certain nombre de règles du jeu. La loi définit les grands principes, et puis après, les branches donnent les règles, et après, l'entreprise a la liberté du reste. Et donc, dans ce cadre-là, on redéfinit dans la loi beaucoup plus clairement, et on va redéfinir dans les ordonnances beaucoup plus clairement qu'est-ce qu'est la loi, qu'est-ce qu'est la branche, qu'est-ce qu'est l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu confus.
Et alors, finalement, sur la branche, vous allez leur donner plus d'éléments dans la répartition, et
alors,
vous pouvez déjà nous donner deux, trois éléments un peu concrets.
Oui, on va donner plus d'éléments dans l'entreprise, déjà, parce qu'on veut mettre
l'accord
plus de dialogue social et économique dans l'entreprise, mais aussi dans la branche. C'est un peu le résultat des concertations, qui n'étaient pas forcément aussi évident au départ. Ça, c'est un résultat des concertations.
Vous renforcez les branches.
On va renforcer à la fois l'entreprise et la branche, parce qu'on croit que le dialogue social, ça peut amener de la performance économique et du progrès social.
Un mot du contrat de chantier, on en a beaucoup parlé sur RTL lundi, c'est un CDI limité dans le temps, un CDI par intérim. Vous souhaitez qu'il soit encore étendu à d'autres secteurs?
Alors, le contrat de chantier, ça existe notamment dans le bâtiment des travaux publics, vous avez
déjà
les grands chantiers, c'est un CDI pour 3 ans, et donc, sous le contrôle des branches, dans quelques secteurs, si les branches en saisissent, ils pourront le faire.
Mais c'est ça, la simplification. Je veux dire, il y a tellement de contrats différents déjà. Il y a un CDD, il y a le CDU, il y a des contrats intérimaires. Vous allez en rajouter un. C'est ça, la simplification?
Non, on ne rajoute pas de contrat.
Rajoutez des secteurs qui pourront encore recourir à ce contrat, ce CDI, qui est pour l'instant réservé au BTP.
C'est un contrat qui existe déjà, on ne le rajoute pas. Et je pense que dans quelques secteurs, ça fait du sens. Vous savez, moi, je suis attachée à la réalité du terrain. Les entreprises n'ont pas toutes la même réalité. Il faut s'y adapter.
On va en parler avec les auditeurs tout à l'heure. Un tout petit mot, Muriel Pénicaud. L'enquête préliminaire ouverte sur l'absence d'appel d'offres pour l'organisation d'une soirée assez coûteuse à Las Vegas, en l'honneur d'Emmanuel Macron, soirée organisée par l'organisme public que vous présidiez, Business France. Libération écrit ce matin que vous avez tenté d'étouffer en interne et auprès des pouvoirs publics, les résultats d'un audit que vous aviez dû commander.
Alors, c'est très simple. Business France est chargé de la promotion à l'étranger des entreprises. Il y a une cinquantaine d'événements avec des ministres chaque année pour promouvoir la France et en l'occurrence les start-up. Ça a d'ailleurs très bien marché. Il y a eu une erreur de procédure. Quand j'ai été alertée là-dessus, c'est Business France qui organise. Il y a eu une erreur de procédure dans nos équipes. Ça peut arriver sur 500 conventions par an. Il y a eu une erreur. J'ai immédiatement déclenché un audit interne et externe. Il y a eu ensuite une inspection générale qui a confirmé qu'effectivement, il y avait eu erreur et d'autre part, j'avais pris les bonnes mesures. Voilà, rien d'autre à dire.
Et rien d'autre. Vous n'avez pas tenté d'étouffer cette affaire? Mais,
attendez, c'est moi qui l'ai mis sur la... C'est moi qui ai alerté le conseil d'administration, c'est moi qui ai déclenché l'audit. C'est une blague.
A tout à l'heure, Muriel Pénicaud avec les auditeurs et Yves Calvi.
L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur RTL.fr et le dialogue social et donc le dialogue tout court se poursuit avec nos auditeurs à 8h20.